Alors, on continue un peu sur notre élan. On a commencé avec Raphaël Jacob de parler des décisions de Donald Trump, Pierre-Yves, notamment la peur de l'arrivée d'une guerre commerciale avec la Chine.
Oui, parce que Paul, il y a deux choses là-dedans. Première des choses, c'est un environnement que tu ne contrôles pas en entreprise. Si tu es dans l'acier ou dans l'aluminium, il y a le prix du marché. Mais là, un droit imposé par-dessus, tu te retrouves avec une situation où tu ne contrôles pas ton prix. Et donc, du jour au lendemain, ton modèle d'affaires change, à qui tu peux vendre change et tes résultats changent. Et là, l'autre point là-dedans, ça c'est l'environnement externe, hein, c'est le côté politique de l'environnement externe. Mais si tu regardes du côté de la Chine possède beaucoup, beaucoup de dettes américaines. Les Américains peuvent pas vraiment niaiser la Chine, Paul, et c'est ça que Donald Trump doit réaliser, là. La Chine possède beaucoup de dettes américaines, donc les deux sont en interdépendance. Un importe de l'autre, l'autre exporte à l'autre, mais aussi, un possède beaucoup de valeur. Donc, si la Chine liquidait des placements, qu'est-ce qui se passerait? Donc, on a un impact sur l'économie américaine. Donc, dans un monde comme on est, c'est totalement fou de voir quelqu'un jouer au protectionnisme de la façon simpliste dont il le fait. Mais parce que chaque fois que tu prends une industrie comme ça, tu peux te revirer de bord sur une autre industrie et perdre.
OK. Alors, tu vois, aujourd'hui, il fait cette déclaration extrêmement importante de conséquences. Comme je te dis, même le premier ministre du Québec a réagi, qu'il annoncerait la semaine prochaine l'imposition de droits de douane de 25 % sur l'acier, 10 % sur l'aluminium pour soutenir les producteurs et l'emploi américain. Là, évidemment, il était en réunion avec des industriels qui produisent et de l'acier et de l'aluminium. Il voulait leur plaire. Il est allé faire cette déclaration-là.
Oui, mais il est-tu bipolaire, Paul, dans le sens
que non, mais tu sais que je veux, je te dis, mets-toi à la place des, mets-toi à la place des producteurs d'acier et d'aluminium ici au Canada ou au Québec.
Ou les Américains, tu sors de la réunion, tu dis, l'affaire est ketchup.
Ben oui, l'affaire est ketchup.
On gagne, c'est fini, tu sais. Donc, c'est vraiment inquiétant de voir
c'est irresponsable!
Oui, mais Paul, plus que ça, on signe des ententes, tu sais, des ententes de libre-échange, mais ils fonctionnent juste d'un bord, tu sais, quand ça fait son affaire. Et, tu sais, la meilleure façon de protéger les jobs, ben, c'est de couper l'extérieur, les États-Unis de l'extérieur du monde.
Oui.
Ça fonctionne pas comme ça dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut plus vivre en autarcie dans son propre pays et faire croire que tout va bien à l'extérieur. Il y a des échanges commerciaux et si on regarde la balance commerciale, il va se rendre compte qu'il vend lui aussi à l'étranger. Si tu fais cette médecine-là des gens, ils peuvent la faire en retour. Une guerre commerciale, ben, voyons c'est une guerre de prix, hein. C'est bon pour personne.
Et comme tu l'as dit, les Chinois ont des cartes.
Une carte.
Spotify se prépare à entrer en bourse sans profit.
Oui, évidemment, Spotify fait pas d'argent, hein. 1,2 milliard de pertes. Mais on va aller en bourse en disant, écoutez, on a 159 millions d'abonnés, 71 millions payants qui payent à chaque mois pour avoir le service d'abonnement de musique infinie. Et tu te dis là-dedans, OK, 4 milliards de revenus en euros, excuse-moi, 1,24 milliards de pertes en euros. Oui, tu as une hausse des revenus, mais là, il va falloir générer des revenus payants. Donc, ce qu'on vend à l'investisseur futur, c'est lui dire, écoute, tu vas acheter un réseau. Tu vas acheter la chance de vendre la musique à un réseau et d'autres produits et des publicités et autre chose. Donc, si tu achètes une action de Spotify, tu vas acheter la possibilité de rejoindre un réseau déjà établi. Et comme on est les dominants dans le monde, on peut vendre autre chose, donc on peut capitaliser là-dessus. Mais tu sais, Paul, des nouvelles entrées en bourse, on a eu Snap qui a baissé, qui était Snapchat. On a eu DavidSteel qui est un fiasco total en bourse, Paul. Depuis l'entrée en 2015, on est passé de 27 à 3,60
$.
Donc, c'est juste cette année, 46 % de perte. Donc, c'est pas parce que ça s'en va en bourse que c'est nécessairement un bon placement. Et Paul, c'est drôle de voir la structure de Spotify. Il y a un petit peu de Luxembourg là-dedans. Juste à dire, la structure légale, il y a une entité au Luxembourg. Je me demande vraiment c'est pourquoi. Hein? C'est peut-être pour les plages.
Au Luxembourg, je ne crois pas. Il y a un grand duché, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de plages.
C'est une blague.
Oui, bien sûr. Le détaillant de mode féminine, Reitmans, a décidé de fermer 17 magasins, ces magasins Haïba, dont 7 au Québec.
Oui, des magasins qui faisaient la promotion, si tu veux, de vêtements de sport. Évidemment, il faut que ta marque soit forte pour être dans le vêtement de sport parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Tu sais, prends par exemple Chlorophyll qui a ouvert ses propres magasins. Ils se sont plantés. Il aurait dû avoir la stratégie de North Face. Tu vends un bon produit à travers le réseau de quelqu'un d'autre. Chacun a sa spécialité. Alors, Redmond, qui est en perte, se dit « Bon, c'est juste 2% de nos ventes. C'est pas un secteur où les gens se disent « Oh, je veux porter cette marque-là. » C'est une marque de la compagnie, oui, mais ce n'est pas une marque qui est, excuse-moi, dans le vent, si tu veux, là, en bon français, et qui attire les gens pour la marque. Donc, on dit « Garde, on va vendre des vêtements de sport dans les Reitmans pour dire « Écoutez, on va offrir cette diversité-là aussi, mais est-ce qu'on peut avoir des magasins de sport seulement, Iba ou Aiba, d'après dépendant de comment tu le prononces. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose de non matériel dans l'entreprise. Puis quand tu regardes les états financiers, Paul, on se rend compte que là, on fait des pertes là, juste pour un trimestre de 16 millions, 17 millions, et que pour l'année, on est encore en perte. Donc, depuis un an, le titre a perdu près de 32 %. Et là, c'est une leçon pour le commerce de détail. À un moment donné, faut que tu choisisses ton camp. Faut que tu dises, OK, nous, on est spécialisé dans les vêtements qui se vendent chez Reitman, donc des vêtements et de confort et des sous-vêtements et tout ça. Est-ce qu'on reste dans le sport? Est-ce que ce créneau-là est payant? Est-ce que la marge bénéficiaire me permet de rentabiliser? Sinon, est-ce que je suis en train de brûler de l'argent pour rien? Et c'est ça qu'on s'est rendu compte. On a abandonné les anciens smart sets. On est allé pour dire, on va rationaliser nos affaires. Et Paul, c'est l'histoire de tous les commerces de détail qui s'en viennent. C'est-à-dire, est-ce que tu veux posséder l'espace locatif? Est-ce que tu veux prendre le risque d'affaires d'avoir le pied carré à payer?
Ben, comme Sears ou l'Abbé, là.
C'est ça, exactement. Ou même, va plus loin. Il y en a plein qui ont fermé, tu sais, les Mex de ce monde, les Jacob. Où tu dis, non, moi, je vais créer une marque tellement forte que je vais vendre plus l'attitude qui va avec. Tu remarqueras, les marques qui fonctionnent, ils ne vendent même pas le vêtement. Ils te vendent le fait d'être quelqu'un dans le vêtement, de vivre une expérience.
Très intéressant. Les temps changent.
Ben oui, pas Northface. On vend d'aller faire des expéditions, Paul. On ne te vend pas un manteau chaud. Et c'est ça qui a changé la marque. On te vend des photos Instagram. Tu comprends la différence? Eh là, Paul, c'est on faut te vendre une expérience, une attitude de soi-même et non plus juste un vêtement.
Merci et à demain.